je m'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me servent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Et on s'est rendu compte très tôt, dans l'Église primitive, que ce qui s'était passé au Golgotha ressemblait terriblement à ce qui se passait dans ce psaume. Hein, c'est le psaume du serviteur souffrant, de celui qui souffre, qui est accusé, qui est condamné à mort. Il se départa, il le crucifie, il se départage ses vêtements en jetant sur eux le sort pour savoir qui enlèverait quoi. Effectivement, les soldats romains qui présidaient à l'exécution d'un condamné pouvaient prendre ses dépouilles, ses habits ou s'il avait autre chose, ils pouvaient tout prendre pour eux. Mais il fallait qu'ils se le partagent. Et or, c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'inscription de son motif de condamnation se trouvait inscrite, le roi des Juifs. Généralement, sur nos croix, nous avons I-N-R-I. C'est en latin, Jesus Nazarenus. Rex Judeorum. Mais vous avez parfois, au lieu du R, un B. C'est Basileus, hein, c'est en grec alors. Jesus Nazarenos, hein, Basileus, ton Iudaio. Donc, et l'inscription de son motif de condamnation se trouvait inscrite le roi des Juifs. Comme si c'était un motif de condamnation. Le roi des Juifs, c'était Hérode. Et donc c'est comme s'il voulait prendre à Hérode son titre, revendiquer en quelque sorte son pouvoir de roi des Juifs. Et avec lui, il crucifie deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche, à sa gauche. Nous y voici. Hein, ce que réclamaient Jacques et Jean, et voilà. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il ne savait pas ce qu'il demandait. Hein? Et alors, de nouveau, un scribe qui a ajouté dans un manuscrit, et puis c'est passé dans le texte, et fut accomplie l'écriture qui dit, il fut compté avec les 100 lois, et c'est un passage du chapitre 53 d'Isaïe, le texte du serviteur souffrant. On l'a mis au rang des sans loi, des anomoi. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui, en hochant leur tête. Et de nouveau, nous retrouvons le psaume 22 que je vais reprendre. En disant, « Et toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descendant de la croix. » On lui rapporte les paroles qui avaient été redites par le faux témoin. Semblablement, les grands prêtres aussi, en le bafouant les uns auprès des autres, avec les scribes, disaient, il en a sauvé d'autres, lui-même il ne peut se sauver. Se sauver, c'est-à-dire échapper à la croix. Mais s'il se sauve, s'il échappe à la croix, il ne nous sauvera pas. Que le Christ, premier titre qui avait été donné au Sanhédrin, le roi d'Israël. Ah, il transforme le roi des Juifs en roi d'Israël. Oui, mais le roi d'Israël, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit roi en Israël. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous ayons foi.
Vous savez que c'est ce qui a été retenu par la tradition musulmane. Hein, selon la tradition musulmane, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a été enlevé par Dieu et remplacé par un autre condamné. Donc c'est quelqu'un qui est mort à sa place. Mais le prophète n'est pas mort. Que le Christ, le roi, donc ça c'est la tradition musulmane, mais ça dit aussi quelque chose. Ça veut dire que le prophète, en quelque sorte, ne peut pas mourir. Comme Mohammed qui a été élevé vers Dieu. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous ayons foi. Mais si on voit, on n'a plus la foi. Hein. Puisque avoir la foi, c'est ne pas voir, mais croire. Faire confiance. Et les crucifiés ensemble, les co-crucifiés, si vous voulez, avec lui, l'insultaient. Et comme était arrivée la sixième heure, une ténèbre arriva sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure, donc de midi à trois heures. Cette ténèbre, vous la trouvez chez le prophète Amos. On relit toujours la passion de Jésus à travers des textes de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Pour dire que Jésus accomplit les Écritures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de même qu'il y avait déjà toute une tradition de la présence de Dieu à travers le peuple d'Israël, Jésus n'a pas dit autre chose. Il n'a fait qu'aller jusqu'au bout de cette tradition. Et à la neuvième heure, Jésus clama d'une grande voix, « Eloi, Eloi, lema sabachthani ?» Ça, c'est la version araméenne, avec un petit accent galiléen, on ne dit pas Eli, Eli, on dit Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sabachthani, au lieu de azaftani, en hébreu, hein, dans le psaume hébreu, c'est azaftani. Eli, Eli, lama azaftani. Rachok mishuati, divrecha agati. Hein, c'est le psaume 22. Nous allons y venir tout de suite, au début du psaume 22. Et à la neuvième heure, Jésus clama d'une grande voix, mais donc d'une manière galiléenne, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui est traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'entendant, disaient, « Voici, il convoque, il appelle Élie. » Normalement, un bon juif qui est là dit, ben, il commence le psaume 22. Quoi dit-il? Il appelle Élie. Nous allons y venir. Or, quelqu'un ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre, l'ayant posé autour d'un roseau, lui donnait à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le dépendre. Or, Jésus, laissant échapper une grande voix, expira. Et le rideau du sanctuaire fut déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Or, le centurion qui était présent en face de lui, ayant vu que criant ainsi, il avait expiré, dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et nous trouvons le deuxième titre qui avait été donné à Jésus au premier verset de l'évangile de Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, milieu de l'évangile, fils de Dieu, fin de l'évangile. Christ, dit par un juif chrétien, Pierre, fils de Dieu, dit par un païen. Or, se trouvait aussi des femmes, il y avait une femme au début, il y a des femmes à la fin de la Passion. Se trouvaient aussi des femmes qui considéraient de loin, parmi lesquelles, et Marie Madeleine ou de Magdala, et Marie, le nom était très, très fréquent, hein, Marie, Myriam, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé. Il a fait au moins trois femmes, parmi lesquelles Marie Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé. Salomé, Shlama, etc., ça, c'est aussi un mot fréquent. Pacifique ou la pacifiée. Qui, lorsqu'il se trouvait dans la Galilée, le suivait et le servait. Allusion, un petit clin d'œil, allusion à la belle-mère de Pierre. Le suivait et le servait. On n'en a pas parlé tout au long de l'évangile. Luc lui en parle, Marc non, mais il le dit à la fin. Et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Vous sentez très bien que dans cette manière de décrire la mort de Jésus, d'ailleurs elle est un peu différemment écrite dans Matthieu, Luc et Jean, dans cette manière d'écrire, il y a déjà une prise de distance par rapport à l'histoire. Il y a des choses qui sont bien entendu des détails tout à fait historiques, et puis il y a une relecture de ce fait historique de la mort de Jésus à travers, entre autres, le psaume 22. Hein, c'est très clair. Donc c'est comme une liturgie du Vendredi Saint, dirions-nous. Mais c'est déjà cela dans l'Évangile. Et non, nous ne pouvons pas lire ce scénario-là comme si c'était exactement la minute de ce qui s'était passé. D'ailleurs, c'est fort intéressant lorsque vous prenez, dans différents films modernes, le moment de la mort de Jésus, et que vous prenez cela, on a fait cela parfois dans des séances de catéchèse, et lorsque vous prenez cette séquence qui ne dure pas longtemps, ça fait 2 minutes, 3 minutes parfois, en bénure, dans Zeffirelli, enfin vous connaissez les différentes passions, etc. Il y en a 7 ou 8. Pardon ?
Pasolini.
Je n'entends pas, c'est drôle. Hein.
Pasolini,
oui, c'est ça. Et puis alors l'autre, Godspell, etc. Bon, quand vous mettez tout ça ensemble, il y en a une dizaine à peu près. Donc c'est 7, 8 ou 9. Et quand vous mettez tout cela ensemble, c'est assez significatif, la manière dont, dans les films, on a reproduit le moment de la mort de Jésus. C'est pour une catéchèse d'adolescent, ça vaut la peine, parce qu'après on les renvoie aux différents évangiles, et on dit, tiens, tel ou tel film, tel ou tel passage, est inspiré de quel évangile, et qu'est-ce qui est brodé, dans le film lui-même, et qu'est-ce qui est, je dirais, typiquement le texte de l'évangile. C'est fort intéressant, c'est un très bon travail à faire avec les jeunes, les adolescents généralement. Et ils prennent à ce jeu. Et finalement, ça fait creuser, on peut faire cette catéchèse même en 3 ou 4 fois, 3 ou 4 séances, et ils prennent cela au sérieux. Et ils prennent goût à travailler le texte dans des choses possibles. Donc je lis le psaume 22. Élie, Élie, donc mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est dit par un psalmiste. Et le titre, l'attribue ce psaume à David. Du maître de chant, ça c'est pour dire la chorale, l'air sur la biche de l'aurore, Ayelet HaShachar, l'air de la biche de l'aurore, psaume de David. C'est dans la collection dite de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver, les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle, et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint? Moi, toi. Et toi, le Saint, qui habites les louanges d'Israël, les prières d'Israël. En toi, nos pères avaient confiance, confiance, et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient, ils échappaient. En toi, leur confiance, ils n'avaient pas honte. Vous savez que le mot honte, avoir honte, en hébreu se dit bouche. Vous savez pourquoi les Israéliens appellent le mur que l'on essaie de construire là entre Palestiniens et Israéliens, ils l'appellent Chomat HaBush, le mur de la honte, c'est-à-dire le mur de bouche. Et moi, veille, et non pas homme, toi, moi. Et vous avez ce mouvement dans le psaume. Et moi, veille, non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il est son ami. Vous retrouvez cela, hein, ce canevas du psaume, vous le retrouvez dans le récit de Marc. Il n'a pas pu écrire ce texte sans avoir le psaume dans sa tête. Ça pose une question, nous allons la voir tout de suite. Moi, toi, c'est toi qui m'as tiré du ventre, ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Et ça, ça rend bien l'hébreu, loin, proche. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Et alors, le passage que je vous ai lu tout à l'heure, des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashan m'encerclent, contre moi baillent leur gueule, lion lacérant et rugissant. Toi, moi, les gens tout autour. Et puis de nouveau, moi. Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Tu me, cette fois-ci, tu me couches dans la poussière de la mort. Et puis, tout autour, des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Ils prennent toute ma puissance. Ils m'attirent, ils me ravalent à eux. Ils ne voient qu'eux-mêmes. Mais toi, moi, toi, mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite, à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien, mon unique. Mon unique, c'est mon âme. Hein. C'est là où je suis vraiment moi-même, mon moi. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Voilà, ça c'est l'homme qui meurt. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Et voici donc que l'annonce traverse la mort. L'annonce, j'annoncerai ton nom à mes frères. La mort n'est pas le dernier mot. Il y a un passage. Car il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. J'annoncerai ton nom à mes frères. Si je passe au-delà de la mort, mais il semble que ce soit vrai puisque je l'annonce, mais c'est encore un futur dans notre traduction, mais un inaccompli en hébreu. Je commence à annoncer ton nom à mes frères. C'est-à-dire la force de vie qui passe à travers la mort. Car il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Donc, une annonce aux frères, une louange du Seigneur, que vive votre cœur à jamais, et puis on ouvre aux dimensions du monde. www, hein, World Wide Web. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Et ça, c'est cette explicitation du cri du centurion. Nous allons voir. Au Seigneur, la royauté, au maître des nations, lui devant lui seul, se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière, et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. Elle annoncera le Seigneur aux âges à venir, elle racontera au peuple à naître sa justice, il l'a faite. C'est une traduction, il y a moyen de le traduire un peu différemment, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Mais quand vous lisez ce texte, et quand vous lisez Saint-Marc, vous voyez très bien que ce texte est en train de jouer, est inscrit en filigrane dans la manière dont saint Marc écrit. Il est libre, bien entendu, il ne prend pas tout à la lettre. Mais vous retrouvez, quand on relit ce psaume, vous retrouvez quantité de détails que Marc nous décrit, comme la mort de Jésus. Et là, vous voyez très bien qu'il a déjà pris de la distance par rapport à ce qui s'est réellement passé. Il l'aurait raconté de façon très différente s'il avait été présent. Et même Jean, qui a été présent, semble-t-il, puisqu'il le dit dans son évangile, même Jean ne l'écrit pas tout à fait comme cela. Il fait encore de la théologie. Parce que l'histoire et le symbole ne se séparent pas l'un de l'autre. Alors, est-ce que Jésus a vraiment crié Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lema sabachthani? C'est possible. En tout cas, saint Marc, en reprenant le cri de manière tout à fait galiléenne, en araméen d'abord, une sorte de traduction, et avec un accent galiléen, semble le dire. Et c'est là un détail qui nous paraît être vraiment exact, historiquement parlant. Mais, de Eloi, Eloi, on ne peut pas tirer, il appelle Élie. On voit bien qu'il y a déjà, là, tout un approfondissement, et qu'il y a un jeu de mots. Élie se dit Eliyahu. Mon Dieu, c'est Yahvé, Yahou. Élie, mon Dieu, est Yahvé. Évidemment, il y a toute cette théologie. On attendait Élie pour désigner le Messie. Il est bien temps maintenant, d'appeler Élie pour annoncer le Messie. Et on joue sur le mot Élie. Il est possible que Jésus n'ait dit que Eloi, Eloi, qu'il a crié comme ça, mon Dieu, mon Dieu. Et que on a pu l'entendre de deux manières différentes. Dans l'Église primitive, on l'a entendu, vous voyez, il est vraiment la figure accomplie du serviteur de Dieu, de l'homme abandonné, opprimé, qui crie vers Dieu. Et donc, c'est le psaume accompli. Jésus est en quelque sorte le psaume accompli. Et derrière, dans la finale du psaume, se profile déjà la résurrection et l'annonce de la résurrection aux frères. Et c'est probablement comme cela que l'Église primitive a lu ce psaume et la mort de Jésus. Les détails, c'est, si on se fiait seulement à Saint-Marc, ne sont pas énormes. Hein. On voit bien que les détails sont repris pratiquement au psaume. Mais quelques points, et notamment un point important, les femmes. Les femmes qui sont là. Et notamment les trois noms de femmes. Ça, ce sont évidemment des noms de l'Église primitive, hein, mais qui sont comme un témoignage. Témoignage d'autant plus important que le témoignage des femmes n'était pas, ne comptait pas, si vous voulez, n'était pas légal. Il n'y avait que le témoignage des hommes, on était très macho là-bas, hein, et il n'y avait que le témoignage des hommes qui était valable. Et donc, si on vous dit que ce sont des femmes qui ont regardé, c'est pour accentuer les choses. Même les femmes l'ont vu. Et elles étaient capables parce qu'elles y étaient. Les autres, tous, s'étaient enfuis comme des lapins. Donc voilà. Vous voyez que cette passion racontée par saint Marc, avec un récit simple et sobre, est toute une théologie. Au fond, c'est le monde entier qui ne veut pas de Jésus, fils de Dieu. C'est trop grand pour nous. On ne peut pas supporter cela. Ça vous dit très bien l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons souvent, dans laquelle se trouve le monde dans lequel nous vivons, pour dire que Jésus est fils de Dieu au sens le plus profond du terme. Et j'entendais il y a quelques années une femme soldat, une soldate israélienne, qui était avec un groupe de soldats israéliens dans la crypte du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et qui expliquait à ces soldats le lieu, ce que ça signifiait. Et elle dit, voilà le lieu où l'on a crucifié un prophète d'Israël, Yeshua, hein, ils ne disent pas Yeshua, ils disent Yeshua, hein, le Jésus. Et alors, tel, les chrétiens en ont fait un dieu, ils l'ont divinisé, comme les Romains divinisaient leurs empereurs. C'est comme ça qu'on peut expliquer les choses. Et c'est intéressant, parce que ça montre bien l'impossibilité dans laquelle nous sommes d'imaginer Dieu homme. Alors, ou bien on n'en fait qu'un Dieu et donc ce n'est pas vraiment un homme, donc il n'a pas été vraiment crucifié, hein, thèse de l'islam, ou bien on en fait seulement un homme et ce n'est pas Dieu, et c'est le symbole de l'humanité entière et c'est le Nouvel Âge, le New Age. Et nous nous trouvons devant un texte qui est une catéchèse. Et qu'est-ce que c'est que croire en Jésus, fils de Dieu, Christ et fils de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Voilà, nous en sommes. De même que le milieu de l'évangile nous mettait devant la personne de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» La fin de l'évangile, avec le cri du centurion, nous remet devant la même question. Est-ce qu'en Jésus le crucifié, je puis reconnaître cet homme était fils de Dieu? Non pas comme un juif le dirait, parce que ce serait encore ambigu, mais comme un païen peut le dire. Et on voit bien que derrière cela, il y a les discussions de l'Église primitive, quels sont les titres que l'on peut donner en vérité à Jésus. Voilà. Être une fois par an, qui s'engageait dans cette obscurité, et quand il devait, dans cette obscurité, prononcer le nom de Dieu et l'oublier tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prononcer le nom par son nom, c'est dire la puissance qu'on a sur lui. Mais on ne met pas la main sur Dieu. Donc pénétrer dans dans la présence de Dieu, c'est vraiment tout oublier, tout laisser tomber. C'est ça que cela veut dire. Et sortant du Saint des Saints, de derrière le voile, il pouvait imposer les mains sur la communauté en la bénissant, c'est-à-dire en implorant la vie de Dieu sur la communauté. C'était le rituel que vous trouvez dans le chapitre 51e de Ben Sirac, si je ne m'abuse. Je crois que c'est 51. C'est toute la cérémonie du grand prêtre entrant dans le Saint des Saints, le prêtre Simon. C'est 50, pardon. Le fils d'Onias, le grand prêtre Simon. Mais à propos du grand prêtre Simon, on vous donne toute la liturgie et quand il ressort, donc il bénit le peuple et on se met à sonner du cor, etc. C'est ce texte qui est repris à propos de Zacharie dans l'évangile de Saint-Luc, quand Zacharie qui fait fonction et qui entre dans le sanctuaire et qui ressort et qui doit bénir la foule, mais pour bénir la foule, il faut toujours le faire avec kolram, c'est-à-dire à voix élevée. Or, il est muet, il ne peut plus bénir la foule. Il faudra attendre dans l'évangile de Luc jusqu'au chapitre 24e, le dernier chapitre, pour voir Jésus donnant la bénédiction. Donc il y a une passation de bénédiction, si vous voulez. Le sacerdoce de l'Ancien Testament ne peut pas vraiment donner la bénédiction dans toute l'humanité, parce que toute l'humanité n'est pas encore assumée, et c'est Jésus qui l'assume et qui la monte vers le Père. Vous voyez, il y a toujours une théologie dans toute cette manière d'écrire, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et c'est cette théologie qui fait le background et le mouvement même des Écritures. Et donc, quand on dit que le voile du Temple fut déchiré, c'est qu'à travers Jésus mourant, disloqué par les bras de la croix et le montant de la croix, disloqué dans son corps, on peut percevoir la présence de Dieu. La présence de Dieu se laisse voir dans le corps de Jésus mourant. C'est ça qu'on veut dire. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui le comprend bien, c'est le centurion, vraiment celui-là était fils de Dieu. On dirait que le voile du temple, qui est maintenant la chair de Jésus, s'est ouverte. L'épître aux Hébreux va expliquer toute cette symbolique. Elle s'est ouverte, là, et à travers la chair de Jésus, je vois Dieu présent. Dieu dont la voix, les deux mains, est clouée à la croix librement, dont le pouvoir, les deux pieds, sont cloués à la croix librement, et dont le désir, qui est maintenant non plus les yeux, mais le cœur, est ouvert pour le monde. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une cohérence à différents niveaux dans l'Évangile. J'ai essayé de vous le manifester petit à petit. Il faudrait reprendre un peu tous les thèmes, vous pouvez le faire, pour voir comment finalement un Évangile est un vivant, c'est une cohérence vitale, et qu'on ne lit l'Évangile qu'à partir de la résurrection. C'est le ressuscité qui nous dit ce qu'il vit dans notre chair humaine. Et de nouveau, nous retrouvons le paradoxe. Jésus ressuscité vit jusqu'à la fin du monde toutes les souffrances humaines. Jésus, laissant échapper une grande voix, Kol Ram, de nouveau, la grande voix avec laquelle le grand prêtre bénissait l'assemblée, Jésus laissant échapper une grande voix, expira. Le chemin vers Dieu est ouvert. Et le chemin vers Dieu passe nécessairement par la croix. Et c'est cela qui est dit. Saint Jean l'explique en toutes lettres. Il parlait du temple de son corps. Il explique la symbolique. Mais elle est présente, à charge pour nous de la découvrir. Alors, une autre question à propos de Judas. Je vous ai dit que Judas, d'ailleurs comme Pierre, ce sont deux pièces essentielles de l'Évangile pour montrer comment Jésus a racheté toute faute. jusque dans le reniement et jusque dans la trahison. Et comme je vous le disais hier, c'est vraiment ça l'essentiel de la théologie de la rédemption, c'est que Jésus, dans le cœur de chacune de nos libertés, il est capable de l'ouvrir à la dimension de l'univers. Dans la mesure où nous le laissons l'ouvrir, c'est toujours cela. Il est tellement respectueux de notre conscience que si nous nous refermons, si nous nous replions, si nous boudons sa présence en quelque sorte, si nous ne nous laissons pas ouvrir à nos frères, c'est par nos frères que cela passe, nous avons de la peine à nous laisser ouvrir le cœur jusqu'à lui. Et c'est vraiment le message profond de tout l'évangile de Marc. Ce que Jésus a fait une fois dans son parcours physique, il le fait dans toute vie humaine, toute vie d'homme et de femme. Et alors, Judas, le traître, là, Marc ne nous en dit pas plus, et nous laisse deviner jusqu'à quel point Jésus campe à l'intérieur de nos libertés. Souvent, il lui faut attendre longtemps, des années, parfois jusqu'à la fin de notre vie. Il attend, il est patient. Il reste sur le seuil. Crainte de nous effaroucher et de brimer quelque peu notre liberté. Mais Matthieu est un peu plus explicite, et il est fort intéressant, Matthieu, sur ce plan-là. Lorsqu'il parle de Judas, lui, il nous dit quand même un petit avenir. Voilà. C'est au chapitre 27e, c'est le passage parallèle, mais comme Marc est extrêmement sobre, on a parlé du plus divin des abréviateurs, je me demande si c'est pas Saint Jérôme qui disait ça, c'était le plus divin des abréviateurs. Mais c'est peut-être aussi le petit noyau qui a été explicité par les autres, c'est pas possible, il ne nous est pas possible de le dire en vérité.
C'est pas celui qui a dit ça, le plus divin des abréviateurs.
Oui, mais il l'a repris.
Ah, il
l'a repris. Il connaissait bien les pères de l'Église.
Il était un des seuls au mouvement
de. Mais c'est vrai, la phrase en français vient de Bossuet, c'est exact. Mais c'est passé dans la tradition. Alors Judas, je suis au chapitre 27 de Saint Matthieu, verset 3. Alors Judas, vous savez que Judas veut dire la louange. Donc c'est celui parmi les tribus d'Israël qui devait exprimer la louange, la tribu de Judas. La louange à Dieu, c'est pour ça qu'elle avait le temple de Jérusalem dans ses attributions. Alors Judas, qui l'avait livré, Iscariote, voyant qu'il avait été condamné, alors, je lis dans ma Bible de Jérusalem, fut pris de remords. Mais en grec c'est épiméléthée. Épiméléthée, ça veut dire il se convertit, il se repentit. Fut pris de remords est déjà un peu une interprétation. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant un sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe, à toi de voir. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Et puis ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent, il n'est pas permis de verser au trésor, puisque c'est le prix du sang, et alors on achète un champ avec ça pour la sépulture des étrangers. Bon. Les pères de l'Église qui sont fins, et entre autres il y a Saint Jean Chrysostome, et puis il y a Saint Augustin aussi qui reparle de cela, qui nous disent, mais au fond Judas a fait une bonne confession. Il s'est repenti, il a rapporté les premières pièces d'argent, le prix de son larcin, il avoue, j'ai péché en livrant un sang innocent, il fait une excellente confession. Oui, disent-ils, mais nous ne sommes pas encore passés dans le Nouveau Testament et les prêtres n'ont pas encore reçu de Jésus la possibilité de donner l'absolution. Et donc, où trouve-t-il? Il ne parvient pas à trouver le pardon, au moins Pierre l'a trouvé, il a pleuré, et le chant du coq. Mais Judas, n'a pas trouvé le pardon. Alors il va se pendre. À quel arbre, disent-ils ? À l'arbre de la croix. Oui. Ça, c'est la vision des pères de l'Église. Il va se pendre à l'arbre de la croix, c'est-à-dire à l'arbre de la miséricorde. Et je crois que parce qu'ils ont une perception symbolique des choses, les pères de l'Église, ils sont souvent, et puis par le temps aussi, hein, ils n'ont pas 2000 ans entre l'Évangile et eux-mêmes, ils ont 300, 400 ans au maximum, hein, 500 ans si vous voulez, hein, et ils sont plus proches de la mentalité, de la perception. Parfois, ils nous ennuient parce qu'ils sont tellement allégoriques que nous n'arrivons plus à les suivre, hein, comme Origène. Mais enfin, quand même. Vous voyez, eh bien, exactement, Matthieu nous explique comment Judas entre dans la miséricorde de Dieu. Mais il faut lire un peu plus profondément que l'anecdote. Si on en reste à l'anecdote, c'est-à-dire si on fait une lecture fondamentaliste, on n'arrive pas à découvrir le sens de l'Écriture. Donc je vous avais parlé de la femme qui commençait par oindre Jésus comme Christ, hein, qui reconnaît en lui le pauvre est donc celui qui les assume tous. Nous avons vu Jésus qui crie en un grand cri, et ce cri résume le cri de Job, le cri d'Israël, le cri de l'humanité. Ce sont tous les cris de souffrance qui sont présents dans ce cri. Il épouse tous nos cris d'hommes, depuis le cri de l'enfant qui sort du ventre maternel, jusqu'au cri de mourant qui n'en peut plus de souffrir. Il assume tous ces cris, ils ont une place dans son cœur et dans sa voix. Et puis les femmes. Et justement, hein, aujourd'hui dans l'Église, très heureusement, le ministère des funérailles est souvent et de plus en plus confié à des femmes. Et ce n'est pas pour rien. C'est très évangélique cela. On revient à une perception de l'Évangile. Ces femmes qui sont là, et qui sont proches de la naissance et proches aussi donc de la mort, car la naissance d'un être humain dit une vie au-delà de nous-mêmes et nous dit aussi notre mort. Elle nous dit la limite de notre génération pour laisser une génération suivante venir au monde, venir au jour et continuer de vivre l'espérance que nous avons vécue. Et donc ces femmes qui viennent au tombeau sont vraiment les premières à faire la célébration du deuil, des funérailles, celle de Jésus. Et dans la célébration de tout homme, de toute femme, tout enfant qui meurt aujourd'hui, c'est toujours la célébration de la mort de Jésus que nous faisons. Et donc, c'est ça qui est important, de percevoir que nous ne devons pas nous refermer, nous replier sur notre souffrance. Elle est ici-bas, et Jésus l'épouse. Il pleure aussi, hein, au moment de la mort de Lazare avec l'évangile de Jean, hein, on le voit très bien. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas le tout. Il faut traverser ce pleur pour recevoir cette présence de Dieu dans ce mort qui s'en va. Il nous emmène en quelque sorte avec lui vers le Père, comme Jésus. Et c'est la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus qui est célébrée à chaque célébration, à chaque liturgie de funérailles. Et donc, c'est présent dans l'Évangile. En Orient, dans le rite melkite, et ça a été emprunté aussi par le rite latin, notamment par les moines et les moniales, eh bien, ce sont les femmes qui, le soir du Vendredi Saint, viennent replier la croix qui est encore sur l'autel, viennent replier les linges de l'autel autour de la croix pour emporter Jésus dans le tombeau. Et c'est elles encore qui sont là pour allumer les bougies, c'est-à-dire la présence, hein, de Jésus ressuscité. Et c'est important, toute cette symbolique. Parce que cette symbolique montre que c'est l'humanité entière qui vit. Et chacun, chacune, avec son rôle à soi. Le rôle de l'homme, ils sont tous partis, c'est pas difficile. Et le rôle des femmes, qui sont là et qui continuent de veiller. Jésus avait dit veiller à tous, et au fond, ce sont surtout les femmes qui l'ont retenu. Maintenant, nous allons voir comment les choses se sont passées. Pas le comment historique. Comment historique, j'en sais rien. Mais en un petit chapitre, où Saint Marc a terminé d'une façon tout à fait abrupte, au verset 8, et où quelqu'un de son église, vraisemblablement, a continué, les versets 9 à 20, on nous dit, non pas un happy end, la résurrection n'est pas un happy end, une fin merveilleuse. Non. La résurrection, c'est la réalité de notre vie en Jésus. Et c'est ça que Marc nous fait bien pressentir. La résurrection, c'est vraiment la vie de l'Église qui croit que le Seigneur ne l'a pas abandonnée.